Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5, il est 7h19.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Hier matin, un hélicoptère transportant Denis Monastirsky, le ministre de l'Intérieur ukrainien, s'est écrasé près d'une école maternelle faisant des victimes. Un drame qui touche encore l'Ukraine en pleine guerre. Cela fait déjà 11 mois que la guerre est déclarée en Ukraine. On va faire un point ce matin sur cette guerre en Ukraine, comme on le fait assez régulièrement sur l'antenne de Bretagne 5. Ce matin, nous sommes avec Cyril Amourski, les reporters de guerre. Il est également chroniqueur chez nos confrères de LCI et il est actuellement en Ukraine et il est en direct avec nous par téléphone. Bonjour Cyril Amourski.
Bonjour, bonjour.
Quelle est la situation en ce moment en Ukraine? Je le disais en commençant, vous êtes en direct depuis l'Ukraine. Comment vivent les Ukrainiens aujourd'hui?
Alors c'est une question assez générale et une question à laquelle il n'y a pas de réponse courte ni facile. Dans le sens où la situation est compliquée, évidemment, mais elle est différente selon les régions. Évidemment, les régions de l'Est, par exemple, telles que les régions de Donetsk et les régions de Lugansk, sont extrêmement impactées par cette guerre, puisqu'il y a des combats réguliers dans ces zones-là. On n'a pas arrêté de parler de Soledar, de Bakhmut, par exemple, dans la région de Donetsk, et on sait que les combats là-bas font rage. Il y a des tirs réguliers, la ville de Bakhmut ne dort pas, dans le sens où il y a des tirs à l'artillerie toutes les 15-20 secondes qui retentissent dans la ville. Donc évidemment, là-bas, c'est compliqué. Si on parle d'autres régions, par exemple Kiev, oui, la situation est compliquée également, parce que là, il y a des problèmes en termes d'infrastructure énergétique, il y a des grosses coupures d'électricité. Ces derniers jours, par exemple, en région de Kiev, il y a des coupures d'électricité qui durent parfois 5-6 heures, voire 7 heures, ce qui est quand même assez considérable. Mais voilà, globalement, le pays est tout de même assez habitué à ce type de coupure et habitué à ce type de situation, aussi difficile qu'elle soit et aussi terrible qu'elle soit. Mais le pays continue à tenir, continue à être debout et continue à faire face à l'agression russe après 11 mois d'invasion. Je ne vois pas en ce moment, un assouplissement ou quoi que ce soit au sein de la société ukrainienne. Bien au contraire, toutes les attaques que l'on voit aujourd'hui du côté de la société russe, lorsqu'on voit ces attaques massives avec des missiles, par exemple, un peu partout dans le pays, comme celle de Dnipro le 14 janvier, eh bien, au final, ça ne fait que renforcer l'état d'esprit ukrainien. Et ce qui s'est passé hier, il ne s'agit donc probablement pas d'une attaque, bien qu'il y ait une enquête et l'hypothèse du sabotage est tout à fait possible, ainsi que celle d'un attentat. Mais pour l'instant, moi en tout cas, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un accident à cause de conditions météorologiques. Le pays est en deuil, le pays est choqué, le pays est blessé avec toutes ces attaques donc qui durent déjà 11 mois. Et en plus de l'événement d'hier, eh bien c'est sûr que ça ne fait pas améliorer la situation, mais le moral ukrainien tient et c'est pas prêt de changer.
On voit les Ukrainiens effectivement qui résistent, qui attendent aussi beaucoup d'aide de la part de l'Occident, de la part de l'Europe. On voit que l'Allemagne traîne les pieds pour donner les autorisations, par exemple, d'exportation de chars. Comment c'est perçu par la société ukrainienne? Est-ce que les Ukrainiens que vous rencontrez vous disent finalement les Européens ils sont gentils mais ils nous aident pas beaucoup? Comment c'est perçu sur place?
C'est très mal perçu dans le sens où les Ukrainiens sont unanimes sur le sujet de l'aide étrangère, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment reconnaissants à leurs alliés occidentaux, que ce soit l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et bien d'autres pays, enfin bien évidemment leurs voisins par exemple polonais, mais ils considèrent que ce n'est toujours pas assez, dans le sens où oui, de l'aide est fournie et on remarque cette aide sur le terrain, parce que très clairement, si les Ukrainiens ont pu avancer, par exemple, au mois de septembre et au mois de novembre dans les régions de Kharkiv, respectivement, et de Kherson, c'est grâce à l'aide militaire étrangère. C'est très clair que ça a participé. Bien sûr que c'est pas que grâce à l'aide étrangère, mais c'est aussi grâce à la livraison de HIMARS, par exemple, qui ont permis de détruire des points stratégiques russes. C'est extrêmement important. Mais ça reste pas assez. Il y a un exemple que je donne tout le temps, c'est que nous, avec mes deux amis avec lesquels je travaillais sur le terrain, on comptait prendre des images. Les LRU français, ce sont des systèmes lance-missiles, ce qu'en Ukraine les gens appellent les HIMARS français, et on n'a pas pu prendre en fait de photos de ces systèmes, non pas parce que les Ukrainiens nous ont interdit de le faire, bien au contraire, ils étaient tout à fait accueillants et ils nous attendaient pour prendre ces images, mais en fait ils n'avaient pas les missiles pour. Ils n'avaient pas les missiles pour parce que la France n'a pas fourni assez de munitions, assez de missiles pour pouvoir s'en servir. Et c'est le cas en fait avec plusieurs autres systèmes en général. Et il faut comprendre que par exemple, lorsque les Ukrainiens ils tirent une fois avec l'artillerie, le ratio russe, il est parfois de 20 fois supérieur, il est parfois supérieur à 20 fois, 30 fois et même dans certaines zones 50 fois. Donc évidemment, avec ces conditions-là, c'est extrêmement compliqué. Et les Ukrainiens sont reconnaissants, mais ils considèrent que voilà, cela fait des mois qu'on n'arrête pas de parler de chars, qu'on n'arrête pas de parler d'avions, qu'on n'arrête pas de dire que c'est compliqué, qu'il ne faut pas provoquer la Russie. À un moment, avec tout ce qui se passe dans le pays, notamment avec l'attaque à Dnipro, il faut arrêter avec ces discours de dirigeants qui traînent en fait sur ces sujets-là. Et donc les Ukrainiens attendent des décisions beaucoup plus dures et beaucoup plus rapides de la part des Européens. Là, on voit que ça bouge un peu avec les chars. Et heureusement, mais c'est vrai que du côté de l'Allemagne, ce discours de en même temps, dans le sens où il faut attendre l'autorisation des États-Unis ou quoi que ce soit, où il faudrait attendre que les États-Unis prennent une décision de ce même type, eh bien en fait, elle énerve parce que c'est encore du temps perdu et ça ressemble plus à une excuse qu'à autre chose. Parce qu'on ne comprend pas vraiment la cohérence de ses propos, en fait.
Les choses pourraient peut-être changer. On a entendu les propos de ministre Lavrov hier et de Poutine même, qui disent maintenant, qui parlent aujourd'hui d'une guerre avec l'OTAN, avec l'Occident, en quelque sorte. Ça pourrait, selon vous, changer le discours aussi de l'Occident, des Européens en particulier. On a l'impression que la Russie, finalement, prend l'Ukraine pour un petit peu le faire valoir d'une guerre qu'elle voudrait livrer, cette Russie, à l'Occident.
Mais si vous voulez, moi je trouve que c'est une question qu'on aurait dû se poser il y a déjà un moment, de toute façon, dans le sens où la Russie, elle n'arrête pas de parler de guerre contre l'OTAN et contre les valeurs, les nouvelles valeurs de l'Europe qui ne sont pas les siennes depuis un certain moment. Ça date pas forcément de 2022, hein, ça date depuis des années et des années et des années. Si vous voulez, même déjà dans les années 2000, il y avait des programmes sur des chaînes télé qui appartiennent à l'État russe, où clairement les intervenants et les journalistes qui menaient donc ces émissions, eh bien, tout simplement disaient que voilà, l'OTAN c'est inacceptable, l'OTAN c'est ceci, cela, l'Occident en ce moment c'est la décadence, et en fait cela fait déjà des décennies que ce type de discours dure, donc ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui ce discours, il est encore plus populaire, on va dire, il a été amplifié au sein de la société russe, parce que voilà, il faut essayer de justifier cette guerre, et c'est toujours en fait l'Occident, si vous voulez, ou bien l'étranger, c'est toujours le bouc émissaire en Russie pour pouvoir expliquer tous les malheurs du pays. S'il y a de la corruption, si le pays ne se développe pas, s'il y a de la misère ou quoi que ce soit, c'est forcément à cause des Américains. Et c'est un discours qui persiste en fait au sein de la société russe déjà depuis des décennies, et c'était même le cas pendant l'Union soviétique. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Est-ce que l'Occident va changer sa rhétorique? Je ne sais pas, je l'espère, dans le sens où je pense que l'Europe et l'Occident en général ont tout de même plus ou moins pris conscience entre-temps de ce qui se passe dans le monde et de ce qui se passe en Ukraine, et heureusement, bien que des erreurs ont été commises les années précédentes, puisqu'on n'a pas réagi à ce qui s'est passé en Géorgie, on n'a pas réagi à ce qui s'est passé en Crimée, on n'a pas réagi à ce qui s'est passé dans le Donbass en 2014, donc cela fait des années que ça dure. Mais là, en ce moment, l'Occident est en train de se bouger, est en train de prendre conscience, essaie de se protéger. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que si la Russie réagit, nous menace, nous parle d'usage d'armes nucléaires sur ses chaînes télé d'État ouvertement, et le fait plusieurs fois, sans aucun souci, eh bien l'Occident doit réagir aussi de son côté. On ne doit pas se faire avoir et on doit se mettre au même niveau que la Russie, dans le sens où on doit pouvoir se protéger nous aussi et on doit pouvoir mettre en garde nos populations et nos armées. Donc pour moi, c'est tout à fait normal.
Cyril Amourski, il nous reste allez, une petite minute, c'est très court, oui. Mais on voit cette résistance ukrainienne, on en parlait en commençant, sur une guerre qui est longue, qui s'annonce encore longue, nous dit-on. Combien de temps les Ukrainiens peuvent tenir? On avait dit, voilà, ils vont vite être mangés par l'ogre russe et finalement ils tiennent. Est-ce que vous êtes, si j'ose dire, pardonnez-moi le terme, mais optimiste pour la suite, ou est-ce que vous craignez que peu à peu les Russes gagnent du terrain?
Non, enfin, c'est-à-dire que ce qu'on voit en ce moment sur le terrain dans le Donbass, c'est sûr que c'est pas très très bien pour l'Ukraine, pour ne pas dire autre chose, mais la situation reste gérable, elle n'est pas absolument pas catastrophique. C'est une mauvaise tendance, certes, parce qu'on s'attendait pas à ce que les Russes continuent à avancer, mais je pense que les Ukrainiens pourront reprendre dans leurs mains le contrôle de cette situation assez rapidement. Il y a bientôt de l'équipement qui va être fourni de la part des États occidentaux pour que l'Ukraine puisse se défendre et puisse avancer. Et je pense qu'il faut observer surtout au mois de février et surtout au mois de mars comment la situation va changer. Voilà. Mais je ne m'inquiète pas trop et sur l'optimisme des Ukrainiens, les Ukrainiens restent optimistes. La situation est extrêmement compliquée. Je vous ai mentionné le Donbass, donc la région de Donetsk et la région de Lugansk. Il y a aussi à Kherson que la situation est extrêmement compliquée. Mais les populations dans les trois régions et dans le pays en général donc restent plus ou moins unis sur la question de la victoire ukrainienne. Ils croient en la victoire ukrainienne, ils l'attendent et ils pensent qu'elle arrivera cette année. Donc, ils restent optimistes de toute façon. Et je pense que ça va durer encore longtemps jusqu'à la victoire.
Cyril Amourski, reporter de guerre, chroniqueur chez nos confrères d'LCI, qui est actuellement en Ukraine, qui nous répondait en direct. Je vous en remercie, Cyril Amourski.
Merci à vous.
Je serais tenté de dire, prenez soin de vous hein, dans les circonstances actuelles et puis on vous rappellera pour suivre évidemment l'évolution de cette guerre. Merci infiniment.
Merci
et je vous souhaite une très bonne journée.
Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.